le système d'entreprise à mission nous plaisait le plus parce que c'est lui qui est le plus simple, en fait, au début, quand on veut se lancer. Il y a d'autres manières de faire, il y a d'autres labels ou d'autres choses, mais qui sont pas forcément adaptées à des jeunes créateurs d'entreprise. Et donc, le fait de le mettre dans nos statuts, pour nous, c'était quelque chose qui marquait vraiment notre volonté de faire ça.
Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue sur La Machine à Sens, votre podcast consacré aux entreprises à mission. Mon objectif est simple, que la notion de société à mission prenne forme pour vous, qu'elle nourrisse vos réflexions en direction d'une entreprise plus responsable et que vous repartiez avec des bonnes pratiques, des écueils à éviter et surtout une envie débordante. Je m'appelle Vivien Pertuzot et j'ai le plaisir de vous accompagner dans cette expérience. Dans cet épisode, je reçois Paul Richer, cofondateur de Sper, une start-up nativement à mission dans le domaine des RH et de la paix. Sper, c'est une aventure à trois cofondateurs qui veulent dépoussiérer un peu le monde du salaire mensuel, une espèce de totem tel que on ne sait même pas comment on pourrait faire autrement. Vous allez découvrir comment et qu'en fait finalement il y a plein d'autres options qu'on n'a pas encore explorées. Mais également, vous allez découvrir le parcours d'une entreprise qui a décidé d'inscrire sa mission dans ses statuts dès la création de la structure, avec les avantages et les inconvénients que cela peut présenter. Alors parmi les inconvénients, il n'y a pas la levée de fonds, puisque Sper a réussi à boucler une levée de fonds l'année dernière, en fin d'année dernière, de 2,5 millions d'euros. Et vu le contexte dans lequel ils ont mené leur levée de fonds, on peut considérer qu'ils ont réussi grâce à leur mission peut-être. Ce que j'aime beaucoup dans mon échange avec Paul, c'est sa prise de recul, sur son style de management ou sur les sujets de valeur d'entreprise, par exemple. Puis on a parlé de voile aussi. Alors moi, quand je pense sponsorship sportif, je vois toujours des structures bien établies, plutôt grosses. Avec Sper, on voit que ce n'est pas une obligation, bien au contraire. Alors petite note, j'ai eu un petit souci d'enregistrement. Donc vous verrez, il y a un petit décalage de son entre moi quand je parle et Paul. Mais ça ne devrait pas gâcher l'expérience de l'écoute, en tout cas je le souhaite. Mais bon, je vous en dis pas plus et je laisse place à mon échange avec Paul. Bonne écoute. Bonjour Paul.
Bonjour Vivien.
Eh bien, merci beaucoup de m'accueillir dans les nouveaux locaux de Sper. Ça fait quelques semaines que vous êtes installé ici, après avoir quitté Station F. Déjà, qu'est-ce que ça fait d'avoir ces locaux ?
Oui, bah, merci à toi de bien vouloir venir chez nous. Et en effet, ça fait un peu moins d'un mois qu'on a emménagé du coup dans le 9e arrondissement à Paris. Et c'est une bonne étape quand même. Déjà, on a l'impression de voler de nos propres ailes et d'être une vraie entreprise, quoi, avec des vrais bureaux. Et pour nous, c'était un objectif déjà de... Enfin, on a adoré notre expérience à Station F. Je pense que c'est quelque chose que je recommanderais à toute personne parisienne qui veut lancer son entreprise, à la fois pour l'accompagnement et pour les bureaux. Mais c'est quand même sympa d'avoir ses propres bureaux ensuite, notamment pour nous, mais aussi pour les personnes avec qui on travaille, qui investissent un espace qui du coup est le nôtre. On peut mettre la déco. Alors comme tu as vu, il n'y a pas beaucoup de déco pour le moment. On vient d'arriver. Mais voilà, on cherche des idées et l'inspiration qu'on va trouver bientôt. Donc non, c'est une bonne étape. À la fois, c'est confortable parce que c'est chez nous. Et aussi, c'est une bonne étape dans l'entreprise. On l'a vu comme ça, quoi. Donc, on est content.
Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais faire une petite présentation de toi et je te laisserai compléter, corriger, amender. Paul Richer, tu es un des cofondateurs de Sper qui a été créé en 2021 avec deux associés, Louis et Pierre. Vous avez monté la start-up à Trinité-sur-Mer avant d'être incubé à Station F, comme je le disais en introduction. Et avant de lancer cette aventure, tu avais pas mal travaillé dans la tech et un petit peu du côté de la banque d'investissement aussi. À côté de ça, je crois percevoir une certaine passion pour la voile. Tu étais même le président du club de voile de ton école. Et d'ailleurs, cette passion, tu l'as transportée au sein de Sper, mais on y reviendra. Des éléments à ajouter ?
Non, pas du tout. C'est une bonne description. En effet, cette passion pour la voile, je ne suis pas le seul. Louis aussi est mordu. Et c'est une très bonne description.
Alors, comme je disais, vous êtes trois cofondateurs. Déjà, première question, comment vous êtes trouvés ? Est-ce que vous avez grandi ensemble ? Comment vous êtes dit, tiens, on va se retrouver, on va se lancer dans cette aventure ?
Oui, alors on s'est en effet on est trois cofondateurs avec Louis du coup qui est un deuxième cofondateur plutôt côté business avec moi. On se connaît depuis longtemps, on était en classe prépa ensemble, on avait des attaches bretonnes aussi un peu tous les deux et voilà, on est des amis en fait tout simplement on n'est pas forcément les plus proches mais on est des amis, ça faisait un peu de temps qu'on réfléchissait à créer une entreprise, on avait cette idée-là entre autres. Et en fait, le temps de se dire et de se convaincre que c'était la bonne idée et qu'on voulait se lancer, on a dû quitter nos entreprises respectives. Louis, qui n'avait pas forcément travaillé dans la tech, a voulu se former un petit peu plus et du coup fait l'école du wagon, qui est assez connue à Paris. Et en fait, il a tout simplement rencontré Pierre, qui était professeur là-bas et qui, lui, avait plutôt des compétences techniques, ce qui nous manquait à nous deux, parce qu'on avait tous les deux plutôt des profils commerciaux, business, et moi un petit peu financier, comme tu l'as dit. Et en fait, Pierre a adoré l'idée. L'embryon de projet a été commencé au wagon avec Louis, qui devait commencer un projet, et donc a pris le projet qui s'appelait Popeye à l'époque. Et donc, il a rencontré Pierre, qui a adoré l'idée. Du coup, on s'est rencontrés tous les trois, et c'est comme ça que c'est parti. Il se trouve que Pierre, au final, est quelqu'un qui a le même âge que nous, et on a des amis en commun, et est devenu, je considère, plus comme un ami qu'un cofondateur, quoi. Donc, voilà comment c'est parti. Et l'idée, on l'a eue pas mal en s'inspirant de modèles qui étaient à l'étranger. Les systèmes qu'on met en place sont des systèmes qui existent beaucoup à l'étranger. Il y a à peu près 80 entreprises qui font ça dans le monde. Il n'y en avait pas en France et pas trop en Europe, parce qu'il y a des modèles sociaux un peu différents dont on parlera plus tard. Et voilà, on a pas mal réfléchi, on a fait une grosse étude de marché avant de se lancer pour comprendre comment est-ce qu'on pouvait adapter ces systèmes-là à la France d'abord. Et du coup, voilà comment c'est parti tous les trois. On a commencé à se mettre tous les trois à plein temps sur le projet en à peu près mai-juin 2021 du coup.
Et avant qu'on arrive justement au cœur de business de Sper, pourquoi vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat ?
Alors, on a chacun nos raisons personnelles, je pense. Moi, personnellement, je viens d'une famille où il y a pas mal d'entrepreneurs. J'avais déjà créé une petite entreprise avant. C'est quelque chose qui me titille parce que je pense que j'ai un petit peu baigné là-dedans dans ma famille. Voilà, on parle souvent de ça et c'est quelque chose d'assez excitant. Moi, je pense que ce qui me plaît aussi, c'est voilà, essayer d'avoir une idée, de la pousser jusqu'au bout et de montrer que ça fonctionne. Et c'est assez gratifiant, à la fois personnellement, pour ça, et de créer un projet fédéré autour de soi, en fait, constamment, hein, que ce soit des clients, des investisseurs, des gens avec qui on va travailler, quoi, qui viennent autour de nous. Je pense que Pierre et Louis avaient un peu moins, baignaient un peu moins dedans, et en tout cas, de ce que j'ai compris, avaient moins d'entrepreneurs autour d'eux, mais étaient motivés par l'idée et suffisamment convaincus pour se lancer, en tout cas, comme ça, quoi. Donc, et je pense pas qu'ils regrettent aujourd'hui.
Ben j'espère.
Hein. Ouais. Bon, je suis sûr même, on en parle souvent. Bon.
Ce serait quand même un peu dommage. Alors, ce qui est intéressant, et on arrive petit à petit au métier de Sper, c'est que vous êtes dans le monde de la paix, des RH, du future of work, mais aucun de vous trois n'était là-dedans. Comment vous êtes dit, tiens, on va se lancer dans un milieu, dans un secteur d'activité qu'on ne connaît pas du tout?
Ouais, c'est vrai. Alors, on ne connaissait pas du tout. Enfin, on n'était pas des techniciens de la paye, par exemple. On n'avait pas forcément d'expérience RH. C'était un point qu'on avait identifié dès le départ. Et d'ailleurs, on est conseillé, suivi par des gens qui sont vraiment experts des sujets-là. Mais en fait, en tant qu'employé, salarié avant dans d'autres entreprises, on avait vécu quand même ces situations où, en fait, voilà, qui étaient contraignantes du point de vue du salaire. Donc ça, on en parlera après sur ce qu'on fait. Mais on était déjà un peu touchés par les systèmes. On avait vu à l'étranger, notamment Louis et moi, on avait travaillé, et Pierre d'ailleurs aussi, dans les systèmes en Angleterre, aux États-Unis, où ils étaient payés plus fréquemment. Et en fait, c'est ça qui nous a marqué, qui nous a poussé à nous lancer, c'est de nous dire, bah, pourquoi est-ce qu'on n'adapterait pas ces systèmes-là à la France? On parle souvent des problèmes de fin de mois, et du coup, bah, en jouant sur la fréquence, qui est assez simple en soi comme idée, on pense toujours d'ailleurs, qu'on pouvait améliorer pas mal de choses. Donc on n'avait pas en effet la technicité, on n'est pas de ce monde-là en direct, mais on pensait que l'idée était suffisamment simple et puissante pour pouvoir fonctionner. Et alors évidemment, on s'est baqué en discutant autour de nous avec des gens qui étaient vraiment experts. On a toujours des gens qui nous suivent depuis le départ sur ces sujets-là et qui nous permettent qui nous ont permis de monter en expertise sur ces sujets, quoi. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui on peut se considérer nous comme des techniciens de la paie ou des RH. Je ne pense pas encore, mais sur nos sujets, en tout cas, oui.
Alors, ce qui est intéressant avec Sper, c'est que justement, vous touchez à une sorte de totem. Le salaire mensuel. En France, on connaît quasiment que ça. Enfin, je sais pas vraiment tout regarder, mais si un jour il y a eu une période où on faisait autre chose que le salaire mensuel, mais c'est vrai qu'en France, c'est une pratique qui, quand même, dans toutes les entreprises, est très ancrée. De dire, bah, il y a un salaire qui tombe à la fin du mois. Alors, comment est-ce que l'idée d'avoir une partie de salaire qui peut tomber à d'autres moments du mois a été reçue par des clients potentiels?
Ça a été reçu de différentes manières. En fait, pour l'histoire, la mensualisation des salaires, ça date des années 70 à peu près. C'était Pompidou qui l'avait mis en place. Et en fait, on a mensualisé les salaires, pas parce que ça permettait d'améliorer la vie des gens ou pas pour des raisons liées au salaire en lui-même, mais plutôt parce que ça permettait d'apporter des avantages, des congés payés à des salariés qui n'avaient pas accès à ça. Donc, c'était vraiment le but. Mais la mensualisation en soi n'était pas le sujet, quoi. Donc, voilà pour l'histoire. En effet, depuis, on n'a pas changé. Et donc, il y a pas mal d'entreprises et de personnes qui connaissaient, qui nous ont un peu remis et rediscuté sur cette histoire-là en disant, tiens, c'est drôle, 40 ans plus tard, voire 50 ans plus tard, on revient sur des systèmes précédents. Donc, c'est pas le fondement en soi de la mensualisation qui compte, mais c'est plutôt les avantages qui étaient liés. Donc, c'est quelque chose qu'on avait bien noté dès le départ. Et après, il y a eu plusieurs manières de recevoir les systèmes. Il y en a un certain nombre d'entreprises qui étaient touchées, qui avaient plutôt des employés avec des salaires assez bas ou entre le salaire minimum et le salaire médian, qui étaient très touchés par les problèmes sociaux et les problématiques de pouvoir d'achat, qui ont bien accueilli les systèmes. Il y avait quelques risques qui étaient émis sur à partir du moment où on touche à la paye, c'est quelque chose qui est souvent assez technique, assez compliqué et complètement central dans l'entreprise. Si vous ratez un mois de salaire, c'est la crise totale, il ne faut vraiment pas faire ça. Donc il y avait un peu ces craintes de ce point de vue là et c'est pour ça aussi notamment qu'on a beaucoup travaillé avec des experts pour avoir un système qui soit évidemment 100% efficace, mais qui reste suffisamment simple pour que ça fonctionne. Et donc voilà comment ça a été accueilli à peu près. Globalement assez bien. Il y a eu aussi quelques points un peu plus négatifs qui étaient à la fois sur ces aspects techniques, mais aussi sur quel va être l'impact que l'entreprise a sur les salariés, les risques que ça pouvait engendrer pour des salariés qui récupéreraient une grande partie de leur salaire en cours de mois. Donc ça, on l'a traité en disant que voilà, on libère des petites sommes. L'idée, c'est pas de pousser des salariés à la consommation, prendre des grands montants, mais c'est de plutôt les débloquer, leur redonner de la souplesse en donnant accès à des montants qui sont raisonnables et contrôlés par l'entreprise, quoi. Donc c'est comme ça que ça a été accueilli et on a construit petit à petit avec ces retours-là une offre et un système qui convient à tout le monde, quoi. Donc,
tu disais tout à l'heure qu'avant de lancer l'entreprise, vous avez fait une grosse étude de marché. Quelles sont les pratiques qui sont les plus répandues ?
Alors, l'étude de marché, on l'a vraiment fait sur la France. À l'international, on a appelé des entreprises et on a regardé les modèles qui existaient à l'étranger, qui était assez différent en fait. Dans les modèles anglo-saxons, par exemple, c'est plutôt assimilé à du crédit. Ça veut dire qu'un salarié, pour récupérer une partie de son salaire en avance, doit lui-même payer. C'est lui qui paye les services en fait. Donc il va payer quelques euros, dollars, ça dépend de la monnaie locale, pour avoir accès à son salaire. Donc c'est vraiment quelque chose qui était culturellement différent, qui résolvait des problèmes qui n'étaient pas les mêmes qu'en France. Et du coup, nous, on a vraiment essayé de travailler en parlant à des acteurs français et un petit peu plus loin européens pour comprendre comment est-ce qu'on pouvait adapter un système qui soit plus inclusif socialement, qui ne soit pas assimilé à du crédit, qui soit vraiment qui permette vraiment d'aider des salariés, quoi. Donc l'étude de marché, on l'a fait en appelant plusieurs centaines d'entreprises de toute taille, quoi. L'idée, c'était vraiment de ratisser super large et de toute taille et de tout secteur. Et du coup, voilà, les retours qu'on a eus étaient assez positifs en fonction des différents secteurs, évidemment. Par exemple, on a moins vocation à travailler avec des professions libérales ou d'autres entreprises. Mais globalement, la solution et les propositions qu'on faisait étaient écoutées avec intérêt. Et parfois plus que ça. C'est-à-dire qu'on est toujours en relation avec, je pense, une dizaine de personnes qui fait partie de cette étude de marché et qui nous aident toujours à construire l'offre et l'outil pour que ce soit performant, quoi.
Ouais, c'est intéressant ça, parce qu'en fait, ça veut dire qu'au-delà de la relation de départ, il y a une continuité au fur et à mesure des années pour dire, bon, bah, votre idée, on y croit, on a envie de vous donner un petit coup de main quand même au fur et à mesure pour construire une offre qui est... Et là, on va rentrer très concrètement dans ce que fait Sper. Ce qui est intéressant, c'est qu'en France, il y a déjà un système qui existe, l'acompte sur salaire. C'est possible de le faire. Mais je pense que parmi les personnes qui vont écouter ce podcast, personne n'a fait ça. C'est vraiment une toute petite minorité de personnes qui connaissent même l'existence de ce dispositif et qui osent l'utiliser, parce que bon, il y a un côté un peu faut que j'aille voir mon manager pour demander un acompte sur salaire. Est-ce que c'était un peu ça, votre volonté? Vous vouliez résorber ça? Comment vous avez abordé le sujet et c'est quoi la solution que vous avez trouvée?
Oui, en effet, c'est un système qui est assez peu connu et qui est vu de manière un peu péjorative pour plusieurs raisons. La première chose qu'il faut savoir, c'est que en fait, les systèmes d'acompte sur salaire aujourd'hui, c'est un droit pour les salariés et une obligation pour les entreprises. C'est-à-dire que si vous vous demandez la moitié de votre salaire le 15 du mois, l'entreprise est théoriquement obligée d'accepter cette demande-là. Mais c'est contraignant pour l'entreprise, ça demande pas mal de charges administratives, c'est aussi contraignant pour le salarié parce que déjà il faut demander à son manager, à son entreprise, qui est quelque chose d'assez gênant, ça veut dire qu'on admet qu'on a potentiellement un problème financier, personnel, donc voilà, c'est assez gênant. Plus théoriquement, il faut envoyer un courrier recommandé à l'entreprise, à son entreprise, avec la demande sous un format spécifique d'acompte sur salaire. Donc ça coûte de l'argent au salarié, ça prend du temps, ça marche pas bien. L'entreprise, pour elle, c'est une tâche qui va prendre du temps, qui va globalement prendre entre 15 et 20 minutes par demande. Ça implique 4 ou 5 personnes, il y a des erreurs. Donc voilà, l'entreprise ne le met pas forcément super en avant. Elle va traiter les demandes parce que c'est une obligation légale qui est faite. Et aujourd'hui, justement, l'étude de marché qui est ressortie, c'est qu'il y a entre 0 et 10% des salariés qui vont faire une demande par mois. C'est-à-dire que ça dépend des secteurs. Il y en a où c'est zéro parce que c'est pas utile, pas connu, ou pour X raisons, les gens n'en font pas. Et d'autres secteurs où c'est plus utilisé et parce que c'est plus connu. Nous, l'approche qu'on a eue par rapport à ce côté légal, c'était de dire, si on simplifie la tâche aux entreprises, qu'on simplifie le process pour le faire, bah, il n'y a aucune raison de ne pas le mettre plus en avant et de le transformer en un avantage pour les salariés. C'est quelque chose d'assez simple et ça faisait sens parce qu'au moment où on se lançait, beaucoup de problèmes sociaux, beaucoup de problèmes de pouvoir d'achat qui sont malheureusement pas résous aujourd'hui. Les chiffres par exemple qu'on sort, et ça s'est aggravé dernièrement, c'est de dire qu'il y avait un quart des salariés français qui étaient en découvert bancaire tous les mois. Donc c'est un chiffre qui est... Je peux la refaire sur les chiffres. Donc il y a un quart des salariés français qui sont en découvert bancaire tous les mois, c'est un chiffre qui est énorme. Le montant moyen, c'est 230 euros de découvert bancaire. 230 euros, ça correspond à peu près 4-5 jours au SMIC. Donc théoriquement, tout le monde pouvait récupérer facilement son salaire, tout le monde pourrait éviter ces frais-là, quoi. Donc c'est l'idée qu'on a eue, on s'est dit ok, ce sera super utile pour les salariés en ce moment, ça va être utile pour les entreprises parce qu'elles vont pouvoir améliorer la politique sociale, faire un pas vers les salariés dans un moment où ils en ont vraiment besoin, quoi. Donc nous, en simplifiant ce processus-là, on aide tout le monde et en plus voilà, ça fait du bien à tout le monde, ça redonne de l'autonomie à salariés, ça valorise l'entreprise aussi dans sa politique salariale sociale, ça la modernise. Donc c'est aujourd'hui ce qu'on propose et c'est pour ça que les gens travaillent avec nous.
Donc là en fait, Sper, c'est une appli qui est à la disposition des salariés, mise en place par l'entreprise. Et vous, vous débloquez, enfin plutôt vous, l'entreprise débloque des sommes plus ou moins grosses, plutôt des petites sommes d'ailleurs.
Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est l'entreprise qui va proposer le système à ses salariés. Les salariés ne sont pas du tout obligés de l'utiliser, mais de manière assez simple, ils peuvent télécharger l'application ou aller sur le site internet pour s'inscrire. Et vraiment très rapidement, ils peuvent voir leur solde évoluer, c'est une estimation de leur salaire tous les jours. C'est déjà une bonne information aujourd'hui. On sait pas, enfin, je pense que aussi les personnes qui écoutent, ce serait intéressant de faire l'exercice de savoir si vous savez combien vous gagnez par jour. Donc, première information, c'est on voit le salaire évoluer au fil des mois. Ils vont pouvoir retirer une partie en cours de mois quand ils le souhaitent selon les règles qui sont déterminées par l'entreprise. Donc, l'entreprise va dire voilà, un salarié a accès à 50% de son salaire en X fois dans le mois, entre telle date et telle date. Donc calibre un petit peu la politique qu'elle va avoir et le salarié va pouvoir interagir en toute autonomie sans avoir à demander et quand il le souhaite, quoi. Donc plus de flexibilité.
Et chez les entreprises qui ont adopté le système, c'est quoi le retour des salariés que vous avez pu avoir? Globalement, est-ce que les gens l'utilisent beaucoup, un peu à la folie?
Oui, non, on essaie de contrôler quand même pas mal l'utilisation. L'idée, c'est de ne pas pousser les gens et notre modèle, notre business model est fait comme ça. On va pousser les gens à prendre plus, toujours plus. Nous, on voit aussi les systèmes pour détecter potentiellement des comportements de gens qui sont à risque ou qui ont des problèmes financiers, ce qui va permettre aux entreprises ensuite de faire un pas vers eux. Mais sur l'utilisation qu'on a, aujourd'hui, on doit être à peu près à 60-70% des gens qui téléchargent l'application. Tous ne l'utilisent pas. Il y a à peu près 30% des gens qui vont faire une demande tous les mois d'environ 100 euros. On a eu des demandes de 10-20 euros jusqu'à, c'est monté jusqu'à des 800 1000 euros. Mais en moyenne, c'est à peu près 100 euros. Quoi. Donc, faut vraiment le voir comme un coup de pouce ponctuel une fois dans le mois, plus que comme quelqu'un qui vient prendre la moitié de son salaire en cours de mois. Quoi. Donc, c'est après l'utilisation qu'on a. Et on sait que les salariés en moyenne viennent voir l'application une fois tous les deux jours, notamment pour consulter et voir si leur solde augmente. Donc voilà à peu près l'utilisation qu'on a. On est en train d'essayer de travailler pour sortir plus de chiffres aujourd'hui là-dessus, essayer de comprendre exactement comment ça fonctionne. Après, on n'a pas forcément de droit de regard pour savoir pourquoi ils l'utilisent. Ils doivent pas, y a pas de raison à donner, l'entreprise n'a pas à savoir. Donc voilà comment c'est perçu. C'est plutôt bien accueilli du coup par les salariés, c'est un avantage qui est très utilisé. Et les entreprises sont assez, pour elles, elles proposent cet avantage-là, donc qui est utilisé pour les salariés, on le met dans les offres d'emploi. Ça permet de faire un peu de recrutement, d'améliorer les délais, de faire un peu de rétention. Et c'est très simple pour les entreprises qui n'ont plus à traiter toutes les demandes à la main. Tout est fait automatiquement. On se connecte au système et il n'y a plus qu'à simplement suivre l'utilisation et typiquement intervenir dans des moments où il y aura des situations peut-être un peu compliquées. Par exemple, un salarié qui va faire trop de demandes tous les mois, nous, on essaye de le faire remonter aux entreprises, de proposer des outils pour accompagner ces salariés-là.
Et je me demandais, parce que en soi, vous avez quand même accès à des informations qui sont quand même très privilégiées. Bon, on parle quand même du salaire des employés, des boîtes dans lesquelles vous intervenez. Et comment vous gérez la partie sécurité de la solution ?
Oui, alors ça, on l'a embarqué dès le départ. On était assez conscient qu'on pouvait toucher à certaines informations personnelles ou sensibles. Déjà, on n'a pas exactement le niveau de salaire très précisément du salarié. C'est plutôt, c'est pour ça que je parle de solde et pas de salaire. C'est une estimation, grosso modo, du salaire. Et ensuite, pour toute cette partie sécurité et RGPD, nous, on a eu... alors moi, je ne saurais pas rentrer dans la technique exactement. C'est plutôt Pierre qui a fait ça. Mais on est audité très régulièrement là-dessus. On est suivi par un cabinet qui fait ça. Et aujourd'hui, par exemple, on va travailler avec la Banque Postale, qui est une banque déjà, avec une partie qui est publique, donc pour qui les attentes et les exigences là-dessus sont très hautes. Et on a passé cette barre-là, quoi. Donc, pour nous, on est assez fiers de ça, parce que pour une petite entreprise comme nous, c'est assez gratifiant de se dire qu'on peut travailler à ce niveau-là avec ces entreprises.
Si on regarde un petit peu les typologies de clients que vous avez, mais tu disais tout à l'heure, on ne s'adresse pas à toutes les entreprises, il y en a pour qui le système est peut-être moins pertinent. Je suis en train de me demander ce que tu peux nous dire aujourd'hui à peu près, est-ce que vous avez une segmentation client ?
Oui, on en a une. Mais oui, en effet, il y a des critères communs à tous les clients. On travaille dans plusieurs secteurs, des entreprises différentes, mais globalement, le dénominateur commun, c'est des entreprises où il y a un certain nombre de salariés, minimum 100-150, qui ont des salaires entre le SMIC et le salaire médian. Donc, ils sont potentiellement touchés par des problématiques de pouvoir d'achat, qui ont potentiellement des urgences ponctuelles certains mois qui vont les mettre dans le rouge financièrement et qui, du coup, ont besoin de toucher leur salaire en avance, en tout cas pour qui ce serait utile. Soit qui font déjà des demandes d'acompte, soit qui en font pas parce qu'ils sont gênés, parce que pour X ou X raisons, c'est pas simple de le faire dans l'entreprise. Quoi. Donc, par exemple, on va travailler avec des entreprises du secteur de la logistique, du secteur de la santé, du secteur de l'hôtellerie-restauration qui était très touchée après le Covid par ces problématiques-là. On a aussi des entreprises dans le secteur agroalimentaire et qui globalement sont de taille plutôt importante. On ne travaille pas avec des très petites entreprises et qui ont des problématiques liées, enfin dont les salariés ont des problématiques de pouvoir d'achat.
D'accord. En fait, j'essaie de voir, c'est vous qui allez les démarcher ou c'est plutôt vous qui commencez à recevoir des demandes ?
Un peu des deux. Alors au début, c'était nous qui allions les démarcher parce que le concept est nouveau en fait. Donc les entreprises ne cherchaient pas des solutions pour ça. Il y en a eu quand même, notamment dans la logistique, qui avait tellement de demandes que, et ça leur prenait un temps tellement dingue aux équipés de juste passer des bandes d'acompte que là, pour le coup, ils ont fait la démarche d'aller chercher. Mais il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui ne cherchaient pas spécialement de système là-dessus. Comme c'est nouveau, ben, en fait, ils ne pensaient pas que ça existait, donc ils ne cherchaient pas. Ce n'est pas comme si on voulait acheter une nouvelle paire de baskets, par exemple. Et du coup, on les a pas mal démarchés. Il y a tout un système aussi pour essayer de chercher à se faire connaître. Et aujourd'hui, on a des clients qui viennent, qu'on va chercher encore, mais aussi qui viennent nous chercher ou qui ont participé à des conférences, des congrès auxquels on était, et qui ont du coup découvert la solution comme ça, et qui du coup font un pas vers nous pour mettre en place ces systèmes. Mais ils ne connaissaient pas forcément avant. Ça se démocratise en France, en Europe.
Ouais, non, mais justement, par rapport à ce point-là, toi, avec un tout petit peu de recul, enfin, pas non plus un énorme recul, mais bon, 2 ans, c'est déjà un premier recul. Quelles sont les démarches que vous avez mises en place pour vous faire connaître le système qui, effectivement, en France, était assez inconnu ? Est-ce que c'est par des webinaires ? Vous avez sorti un livre blanc ? Est-ce que c'est par des prises de parole dans différents salons ou autres ? Comment vous avez fait votre marketing, finalement ?
Oui, c'est un peu tout ça. On a essayé de travailler là-dessus. On a fait un livre blanc. On essaie de pas mal participer à des salons un peu spécifiques parce que voilà, les cibles qu'on cherche à toucher, c'est des RH d'entreprise ou des dirigeants d'entreprise, donc ça reste quand même une cible assez précise, et on a cherché à essayer de se faire connaître comme ça en participant à des congrès ou des conférences assez spécialisées sur les systèmes. Mais la manière dont on s'est développé, et on l'a fait un peu par phase, c'est-à-dire d'abord on va essayer de nous-mêmes aller chercher et convaincre une dizaine, une quinzaine de clients qui l'utiliseraient pour être sûr qu'en fait les systèmes fonctionnent bien, que travailler avec eux main dans la main pour être sûr que voilà, tout se passe bien et avoir un outil qui soit performant à la fois pour les salariés et pour l'entreprise. Et ensuite, une fois qu'on est sûr que ça fonctionne bien et que on peut se développer à plus grande échelle, travailler sur le marketing. Donc la politique marketing est quand même assez récente, sachant qu'on est une entreprise qui a 2 ans, quoi, donc ça reste assez jeune, quoi, mais on travaille là-dessus.
Est-ce que tu peux nous parler un peu des évolutions qui sont prévues ? Parce que bah, comme toute jeune entreprise, vous avez un produit au départ, puis ensuite, bah, forcément, il y a des petites variantes qui peuvent arriver pour avoir de nouveaux produits complètement différents.
Oui, alors le concept de base, c'était le salaire à la demande, dont on parle depuis le début. Mais aujourd'hui, on fait 3 choses différentes. La première, c'est le salaire à demande. Donc ça permet à un salarié, via une application, un site internet, de récupérer une partie de son salaire quand il le souhaite dans le mois, sans avoir à attendre la fin du mois, quoi. Le deuxième volet qu'on propose, c'est un volet qui va aller un peu plus loin que le salaire, mais qui va englober d'autres aspects de la rémunération plus globale. Par exemple, avoir accès à des heures supplémentaires, avoir accès à ses RTT, avoir accès à son compte épargne temps, avoir accès à un 13e mois qui est mensualisé, quoi. Donc c'est pas mal de choses qui sont mises en place selon des secteurs, via des acteurs corps d'entreprise, qui sont faits pour aider les salariés, leur donner un peu plus de pouvoir d'achat, justement, les récompenser, mais qui sont souvent assez peu disponibles. Et nous, ce qu'on veut chercher à faire, c'est les rendre disponibles, et c'est dans l'intérêt de l'entreprise et du salarié aussi, quoi. Donc, ce sont des choses qui sont assez mal comprises et assez techniques. On est assez spécialiste en France pour faire des choses très techniques et complexes administrativement, et on essaie de simplifier tout ça pour les mettre en avant. Donc ça, c'est une des choses qu'on développe avec certains clients en fonction de ce qu'eux mettent en place déjà. Et le dernier volet, qui est un volet qu'on a développé assez rapidement depuis le départ, c'est un volet d'accompagnement social. En fait, l'idée, c'est de dire, bah, si on veut aider des salariés sur des problématiques de pouvoir d'achat, on les aide sur les revenus en leur donnant un meilleur accès aux revenus avec le salaire à demande. Il faut aussi les aider sur les coûts. Et du coup, on a développé une offre d'accompagnement budgétaire des salariés qui se découpe en 3 volets, quoi. On a voulu faire quelque chose d'assez pratique. Premier volet, c'est leur donner des petits conseils, des astuces pour les aider à faire face à des petits problèmes de la vie de tous les jours, ou leur proposer des réductions très simples tous les jours. Par exemple, on avait fait une campagne sur au moment où l'essence coûtait très cher et était peu disponible, sur quelle était la station essence la moins chère autour de leur lieu de travail ou leur lieu de vie. Et aussi, ensuite, on propose un accompagnement via des experts qui est double, et qui va permettre aux salariés soit de réduire leurs charges fixes, comme des factures téléphoniques, des assurances énergie, histoire d'avoir moins de coûts, moins de charges tous les mois, du coup de gagner un petit peu d'argent. Et de l'autre côté, des experts qui vont les accompagner sur des problématiques plus dures ou plus profondes, en tout cas, comme le surendettement, l'addiction, et qu'il faut avoir un accompagnement plus ou moins long terme. Ça dure 3 mois avec un suivi ensuite qui se passe. L'idée, c'est de dire que si un salarié en a besoin dans une entreprise, il peut être accompagné. L'entreprise ne l'accompagne pas, mais lui propose des outils pour le faire, quoi. Donc, ça y est, aujourd'hui, à peu près, sur ces parcours d'aide à la gestion de budget, entre guillemets, il y a à peu près 10% des salariés qui vont vers ces parcours-là. Et on a eu quelques cas, en effet, de gens qui étaient dans la situation de surendettement, qui n'avaient pas signalé en entreprise et qui, du coup, sont passés par nos systèmes pour s'en sortir, quoi.
Et là, dans ce cas de figure-là, qui paye ? C'est l'entreprise ? C'est compris dans un forfait ?
Alors, c'est compris dans un forfait que l'entreprise paye. Et ensuite, sur l'accompagnement, nous, on travaille avec des associations ou des bénévoles qui travaillent là-dessus. Par exemple, il y a Crésus sur le surendettement, qui est une association, je ne sais pas si on peut utiliser le terme leader pour une association, mais qui est très connue en tout cas, qui existe depuis 40 ou 50 ans, je crois, et qui sont très forts là-dessus. Et ensuite, nous, on sélectionne des bénévoles ou des gens qui sont spécialisés sur des problèmes très spécifiques là-dessus, quoi. L'idée, ce n'est pas d'avoir des gens qui viennent proposer des produits à des salariés, mais c'est plutôt vraiment un accompagnement long terme humain pour les aider là-dessus, quoi.
C'est intéressant parce qu'en fait là vous rentrez dans une relation très privilégiée avec les salariés, parce que de fait c'est autant d'informations que l'entreprise ne doit pas apprendre.
Non. Ah oui, là, tout est anonyme. L'entreprise aura une idée du nombre de personnes qui font des parcours, mais ne saura pas qui, ne saura pas pourquoi. Vraiment, la dynamique, c'est de dire les problèmes financiers sont des problèmes de la vie privée des salariés, mais l'entreprise en est un petit peu responsable parce que c'est elle qui émet la rémunération et elle peut aider les salariés à le faire. Alors elle n'a pas à se mêler des problèmes privés, mais elle peut proposer des choses pour les aider. Et notamment, ce qui nous avait motivé aussi, c'était que quand on avait fait notre étude de marché, on a aussi posé des questions à des salariés, et les deux problématiques qu'on avait remarquées, c'était un, le problème d'accès à la trésorerie qu'on résout avec le salaire à demande, et deux, le problème d'éducation budgétaire. On n'apprend nulle part à gérer son argent, alors que c'est quand même quelque chose qui est commun à tout le monde, quoi. Ce serait intéressant d'avoir ça à l'école, et personne ne propose ça. Il y en a un petit peu, la famille souvent joue un peu ce rôle, mais c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde n'a pas cette chance là et du coup on s'est dit que l'entreprise pouvait proposer des petits éléments pour aider, quoi. Donc c'est dans cette veine là qu'on s'inscrit.
D'accord, intéressant. Je te propose qu'on passe sur une partie un peu plus culture, management, un peu chez Sper. En regardant le site internet, j'ai vu que vous aviez défini 4 valeurs: accessibilité, simplicité, responsabilité et partage. En les voyant, je me suis dit que c'était étonnant parce que toutes sont tournées plutôt sur l'externe. Et je me suis demandé si c'était volontaire et comment ça se reflète sur l'interne.
C'est un bon élément. En effet, on avait un peu cette réflexion sur interne-externe, même dans le choix de notre mission, notamment, dont on parlera après, j'imagine. Parce que, en fait, la mission, et souvent quand on lance une entreprise, on se dit OK, je veux avoir un impact sur l'extérieur. Et au final, il se passe quand même pas mal de choses. Enfin, il faut toujours commencer par soi, en fait, tout simplement. Et les valeurs sont, pour le coup, tourner vers l'extérieur, mais on essaie de les appliquer aussi à l'intérieur. Par exemple, la simplicité, le partage, la responsabilité sont des choses qu'on essaie de mettre en place dans notre manière, dans notre style de management. Les gens qui viennent travailler avec nous, on a à peu près une douzaine, sont impliqués avec nous dans le projet. Il y a plus une relation de on travaille ensemble plus qu'une relation de boss à salarié, entre guillemets. Et donc c'est comme ça qu'on essaie de fonctionner. On essaie de les responsabiliser très rapidement sur leurs tâches, leur donner beaucoup de flexibilité, en fait, tout simplement. En revanche, il faut qu'elles-mêmes fonctionnent et travaillent en conformité avec les 4 valeurs qu'on a mis en place, quoi. Donc ça se marque dans notre style de management, déjà.
Justement, ça m'invite à te demander, sauf erreur de ma part, aucun d'entre vous n'avait d'expérience managériale avant de lancer Sper. Alors, un, on s'improvise difficilement dirigeant d'entreprise, et deux, on peut s'improviser manager, mais parfois c'est quand même un peu compliqué. Comment vous avez appréhendé cette situation? Comment vous continuez de l'appréhender, hein, puisque c'est encore tout frais pour vous?
Ouais, c'est clair. On avait des petites expériences de management. Moi, j'avais eu une équipe de 4 personnes déjà avant, mais en effet, c'était pas. On est assez jeune, on est une trentaine d'années, du coup, quand on s'est lancé, on devait avoir 28 ans. Si mes calculs sont bons. Et là-dessus, pareil, c'était un point qu'on a identifié assez rapidement. Du coup, on se fait conseiller notamment par des investisseurs ou des gens qui nous suivent, qu'on a sélectionnés et qui nous conseillent là-dessus, souvent. Et puis après, on essaye d'appliquer les choses que nos managers n'ont pas forcément fait avant. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on se développe, mais c'est aussi quelque chose qu'on essaie de créer. On est bien conscient que on n'a pas un style très marqué parce que pour le moment on n'a pas une expérience de 20 ans de management, mais faut bien commencer quelque part, donc voilà.
Vous avez fait votre première levée de fonds cette année en avril si je m'abuse, donc une levée de fonds de 2,5 millions d'euros. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça change pour vous, qu'est-ce que ça a changé?
Oui, alors c'est en effet, on a fait une levée de fonds de 2,5 millions d'euros qui a été annoncée en avril mais qui était bouclée en décembre dernier. Pour nous, ça change. En fait, il faut plus le voir comme un marqueur d'une réussite de ce qu'on avait fait avant que comme quelque chose qui va nous permettre d'ouvrir les possibilités de manière énorme. Évidemment, ça nous donne des moyens pour aller plus vite. L'idée de la levée de fonds, c'est d'aller un peu plus vite et de développer l'idée rapidement. Parce qu'on pense que le timing est excellent et qu'il nous faut plus de ressources pour aller plus vite, en fait, tout simplement. Mais c'est quand même le résultat de tous les efforts qu'on avait fait avant quand on s'est lancé tous les trois et l'idée c'était de dire qu'on, enfin nous on a fonctionné par phase comme je l'avais dit et c'était la conclusion d'une phase où voilà on a réussi à convaincre une dizaine de clients pour qui le système fonctionnait bien. Et donc l'idée de la levée de fonds, c'est de dire, bah voilà, on a réussi à le faire avec 10, ça marche bien, ils sont contents. Il y a des bénéfices qui sont marqués qu'on a réussi à mesurer ensuite et du coup on vient lever des fonds pour aller se développer sur d'autres secteurs, d'autres marchés, être capable d'aller emmagasiner des clients un peu plus gros. Et il y a quelques entreprises assez gros, de taille plutôt intéressante qui s'intéressent à nos systèmes. Et pour ça, il faut être capable d'avoir, d'avaler, on va dire, les opérations que ça représente. Et du coup, il faut recruter. Et c'est l'objectif principal de cette levée de fonds, notamment.
Donc c'était en décembre quand vous avez bouclé la levée de fonds, donc c'était un tout petit peu avant ou pendant, en tout cas c'était vraiment dur, très très dur de faire des levées de fonds à ce moment-là, ça l'est encore aujourd'hui. Est-ce que vous avez rencontré, surtout que c'était votre première levée de fonds, est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour finir le tour de table ou même pour trouver des investisseurs qui étaient prêts à investir dans une solution qui, un, n'existait pas vraiment en France, deux, était presque inverse à l'état d'esprit français?
Ouais, c'était pas forcément évident, surtout que en fait, quand on a commencé la levée de fonds, c'était vraiment le moment où les fonds commençaient à dire « Ok, là ça se tend, on ferme les écoutilles parce que on sait pas quelle va être la situation économique dans le futur, donc on sait pas, on peut pas faire des prévisions, donc ils fermaient beaucoup, enfin ils investissaient quasiment plus quoi, en fait en septembre, mais ça on l'a bien senti, même s'il y en avait certains qui nous suivaient depuis un peu de temps. Et c'est ceux-là notamment qui ont décidé d'y aller parce qu'ils croyaient vraiment au projet. On avait des résultats qui quand même étaient intéressants. Et on a une approche et une manière de faire, enfin en tout cas un produit qui est de rupture et intéresse des clients de tout secteur confondu avec des entreprises de taille différente. Donc c'était ça, ces marqueurs-là commerciaux qui ont intéressé les fonds. Mais oui, c'était pas évident. Au début, on s'est pris quelques portes, pas forcément parce que ce qu'on faisait était pas bien, mais parce que la situation économique faisait que il y avait pas beaucoup moins d'investissements en tout cas.
Ouais, mais j'imagine bien. La question que je me pose, c'est que là, donc, ce première levée de fonds faite, vous commencez à recruter. Est-ce que l'objectif, c'est de se dire, on va recruter au maximum très vite énormément de personnes? Ou c'est plutôt une croissance un peu maîtrisée pour solidifier avant tout vos piliers, être sûr que le produit marche, tout le monde est embarqué, et puis ensuite, on pourra peut-être scaler vraiment. C'est quoi votre état d'esprit ?
L'état d'esprit, c'est plutôt d'avoir une croissance maîtrisée. Moi, personnellement, j'ai jamais trop cru aux entreprises qui passaient de 1 à 300 employés, ne serait-ce que parce qu'en fait, vous pouvez pas former ou avoir une vraie culture d'entreprise en allant aussi vite. Donc on est plutôt dans la dynamique de se dire on va essayer d'avoir une équipe qui est qui correspond exactement à ce dont on a besoin, quoi, en fonction des opérations qu'on a, des clients qui arrivent, donc on s'adapte un petit peu. Le côté commercial drive quand même pas mal les choses, on s'adapte un petit peu à ce qu'on voit arriver. Et mais on est dans cette dynamique-là de dire on va plutôt avoir une équipe resserrée, soudée, avec une culture qu'on met en place de manière sereine et sur le long terme, plutôt que d'aller un peu dans tous les sens. Et je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui se rendent compte de ça en ce moment. Donc voilà, c'est un peu la dynamique.
Je te propose qu'on passe au sujet de l'entreprise à mission. C'est un petit peu quand même l'enjeu du podcast. Alors, vous avez fait le choix de passer entreprise à mission dès la création. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce choix ?
Oui, c'était on l'a inscrit dans les statuts dès le lancement. Ce qui nous avait réunis avec Louis et Pierre dès le début, c'était de dire qu'on voulait créer une entreprise qui avait un impact qui était positif au-delà de l'impact économique et de voilà, réussir à créer une entreprise qui permettait de faire vivre un certain nombre de personnes. Et c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur, et c'est aussi ce qui nous a plu dans cette idée. C'est-à-dire qu'il y a un impact qui est, enfin, c'est une idée simple mais extrêmement puissante et qui pouvait résoudre un certain nombre de problèmes. Et du coup, on s'est intéressé un peu aux différents systèmes qui permettaient d'avoir de l'accompagnement, parce que pareil, on n'avait pas forcément d'expérience où il y a assez peu d'entreprises qui accompagnent d'autres entreprises à voilà, poser les bons critères, poser les bonnes bases pour avoir une entreprise qui soit avec un impact positif. Comment est-ce qu'on fait pour mesurer? Quelles sont les choses qu'on met en place? Et on a recherché pas mal de choses là-dessus. Le système d'entreprise à mission nous plaisait le plus parce que c'est lui qui est le plus simple en fait au début. Quand on veut se lancer, il y a d'autres manières de faire, il y a d'autres labels ou d'autres choses, mais qui ne sont pas forcément adaptées à des jeunes créateurs d'entreprise. Et donc le fait de le mettre dans nos statuts, pour nous c'était quelque chose qui marquait vraiment notre volonté de faire ça, qui est contraignant quand même. C'est un risque qu'on prend parce que dès le départ on s'impose une mission, mais déjà on ne sait pas si on va rester sur le même modèle, on n'est pas encore sûr à 100% de ce qui va se passer. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez contraignant. Aujourd'hui, je pense qu'on est quand même, on l'a jamais changé. Donc on a été assez proche de ce qu'on a voulu faire dès le départ. Et donc voilà, c'est vraiment un marqueur de notre volonté d'avoir un impact. Aujourd'hui, on développe de plus en plus d'indicateurs. On essaie de plus en plus suivre auprès de nos clients et auprès des utilisateurs quel impact on a. Est-ce qu'on arrive à vraiment trouver des bonnes solutions? Est-ce qu'on voit des choses, des cas particuliers, et on essaie de voir ce qu'on pourrait faire encore plus pour aller plus loin que dans notre mission.
Là, je vais te poser une question. Alors, tu n'es pas obligé de répondre, hein, évidemment, mais tu disais en introduction que tu viens d'une famille d'entrepreneurs. Comment tu as expliqué que tu allais créer une entreprise à mission nativement? Est-ce qu'il y a eu des réactions? C'est quoi ce truc?
Non, pas forcément. Alors, les statuts d'entreprise à mission et même les missions globalement d'entreprise au-delà de mission économique, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Mais je pense que c'était quand même quelque chose qui était induit, on va dire, avant, quoi. Il y avait quand même des entreprises qui étaient créées, pas simplement pour avoir une raison économique, mais qui avaient un impact social assez fort. Le fait de marquer, de labelliser ça, pour le coup, c'est nouveau. Donc ça n'a pas été questionné. On m'a demandé un peu ce que ça impliquait en termes de contraintes, en termes de administratif, et voilà, quels étaient est-ce que c'est juste quelque chose qu'on met dans les statuts ou est-ce qu'il y a un vrai suivi derrière. Donc là, oui, il y a eu des questions, mais je trouve que c'était quelque chose, enfin, j'ai pas eu de questions, c'est assez logique, on va dire, de le faire comme ça. Et voilà, quoi. Mais moi, je pense que c'est une très bonne chose de justement le marquer, de faire un suivi. Ça permet déjà d'avoir quelque chose de commun à plusieurs entreprises. Nous, on retrouve, c'est d'ailleurs quelque chose qui est assez intéressant de voir, même chez des clients qui sont eux-mêmes entreprises à mission. C'est quelque chose qui rapproche, ça c'est clair. Et ensuite, je trouve ça intéressant parce que ça permet de vraiment avoir un suivi. Et même si nous, on avait la volonté de le faire, en fait, on n'a pas forcément les outils et les moyens de le faire. Et le système d'entreprise à mission permet de le faire. Alors, il faut être un peu volontaire. Il ne faut pas simplement le mettre dans les statuts et puis c'est bon. Mais ça pose un cadre, quoi. Donc, ça, c'est une bonne chose.
Alors, on va rentrer un petit peu dans le fond Mais tout à l'heure, tu disais par rapport aux valeurs et à la mission, c'est vrai qu'on s'est posé la question d'avoir une mission plus tournée vers l'externe, mais aussi il fallait se poser la question de l'impact sur nous en interne. Comment est-ce que vous avez réfléchi votre mission? Parce que c'est hyper dur pour des cofondateurs. Vous travaillez en chambre, à trois, vous n'avez pas encore de collaborateurs, pas de clients, pas de partenaires. Enfin, vous aviez déjà effectivement regardé, contacté des personnes, mais au début, c'est juste vous trois à dire, bon, bah, c'est quoi notre mission? Et comment vous avez géré cette situation?
En effet, c'était assez intéressant parce que quand on est trois en chambre comme ça, la mission à laquelle on pensait, c'était forcément vers l'extérieur. Et quand on s'est intéressé aux différents systèmes qui existaient, même si on était déjà un peu au courant, mais quand on a creusé les choses, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de labels ou de systèmes qui étaient tournés vers la gestion interne de l'entreprise. Donc nous, comme on était tous les trois, ça ne nous intéressait pas forcément, enfin pas tout de suite en tout cas. Et du coup, la mission qu'on a inscrite dans le statut est vraiment très tournée vers l'externe. Et c'était ça qui nous intéressait aussi, quoi, parce que nous, gérer notre entreprise d'une manière saine et bonne, c'était quelque chose que voilà, on était déjà convaincus de faire et on ne pensait pas qu'il y avait, on pouvait mettre des critères dessus. L'impact qu'on voulait avoir, c'était vraiment tourné vers l'extérieur. Et ça qui est beaucoup plus difficilement mesurable parce qu'on n'a pas la main dessus, quoi. Alors que nous, ici, on voit directement, enfin, on est en contact tous les jours, quoi, avec nos employés et les gens avec qui on est. Et du coup, c'est comme ça qu'on a appréhendé les choses. On s'est fait pas mal conseiller aussi par des gens comme toi, par exemple, qui connaissent bien les systèmes et qui nous ont aiguillés, qui nous ont dit, voilà, il faut mettre en place ça, il faut le faire comme ça, ça implique ce genre de choses. Et c'est comme ça qu'on a avancé, quoi.
Alors, vous êtes fixé comme raison d'être de développer la résilience financière des salariés.
Très large. C'est aussi une technique. Parce que quand on se lance au début, il faut trouver quelque chose de large et pas très spécifique. Parce que sinon, ça nous force à aller vers une direction qui est trop précise. Et comme on ne savait pas, on était trois en chambre, il faut trouver quelque chose de suffisamment large pour être sûr qu'on va rester dans les gonds 10 ans plus tard, quoi.
Ce qui est intéressant dans les termes que vous utilisez, c'est celui de résilience financière. Pourquoi est-ce que vous estimez que c'est un enjeu social important ?
À l'époque, c'était déjà un enjeu social fort. Au moment où on s'est créé, il y avait les gilets jaunes un an avant et les problématiques de pouvoir d'achat montaient. Vraiment, ce qui nous a marqué avant de créer l'entreprise, on avait fait cette fameuse analyse de marché où on a appelé des entreprises mais aussi des salariés et c'était vraiment ce côté financier large qui nous a frappé, quoi, du côté des salariés, quoi. Il y a un vrai problème de pouvoir d'achat, mais pas que, en fait. Il y avait assez peu de choses qui étaient mises en place. La rémunération, c'est un système qui, globalement, n'a pas évolué depuis 50 ans. En France, en tout cas, dans d'autres pays, ils font plein de choses. Et on s'est dit, OK, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille, quoi. Donc, pour nous, ce qui nous a vraiment motivé et frappé, c'était à quel point la problématique était forte en France. À la fois de manière subjective, quand on discutait avec des salariés, mais aussi dans les chiffres qu'on voyait dans les différentes analyses, et le peu de choses qui étaient mises en place pour les traiter, en tout cas. Donc voilà, c'est vraiment dans cette dynamique-là qu'on s'est inscrit. Après, le terme de résilience est un terme assez large qui nous a permis de mettre en place ensuite des outils qui n'allaient pas contrecarrer la mission, quoi. Mais pour nous, c'est un enjeu social fort. Alors aujourd'hui, souvent, quand on parle d'enjeux d'entreprise à mission, on pense à l'enjeu environnemental qui est le numéro un, je pense, mais en fait en sous-jacent il y a quand même des enjeux sociaux assez forts et on le remarque vraiment nous avec les entreprises avec qui on travaille et les salariés avec qui on échange, c'est vraiment quelque chose de très marqué, quoi. Donc c'est une autre dynamique, mais
Oui, mais en ce sens c'est vrai qu'il y a une tendance à vouloir mettre des sujets environnementaux au cœur de sa mission. Après, il n'y a aucun problème à ne l'avoir qu'au niveau social. Et c'est vrai que dans votre cas de figure, surtout au début, ça aurait été peut-être un peu étonnant même d'avoir quelque chose d'environnemental. Ça aurait été peut-être même un peu artificiel de rajouter quelque chose à caractère environnemental.
C'est ça. C'était pas du tout le but, mais souvent quand on voit dans les entreprises qu'il y a des responsables ESG et tout ça, ce sont des gens qui sont souvent tournés vers l'environnemental en fait et assez peu vers le social. Et on voit de plus en plus dans les entreprises que ces personnes-là ont des casquettes sociales et considèrent de plus en plus ces enjeux-là qui sont souvent assez mal mesurés, qui sont souvent un peu sous-jacents, parce qu'en fait, c'est des problèmes personnels. Donc voilà, ça sort un peu du bois. Après, les problèmes environnementaux qui sont beaucoup plus marqués aujourd'hui, mais c'est un sujet qui est quand même avec un enjeu énorme.
Vous avez complété la raison d'être de 3 objectifs statutaires, donc faciliter l'accès à l'éducation financière, développer le bien-être financier en entreprise et innover pour être un acteur du changement dans les organisations et renforcer la politique sociale à l'égard des salariés. Alors j'imagine qu'il y a, évidemment c'est très tourné sur le produit, mais est-ce que ça vous a aidé aussi, parce que tu disais tout à l'heure c'est un cadre pour nous, est-ce que ça vous a aidé à un certain moment de dire comment est-ce qu'on peut être vraiment hyper aligné avec la mission et à l'inverse peut-être de dire ça on va pas le développer parce qu'en fait ça correspond pas vraiment à ce qu'on a mis dans les statuts?
Ouais, c'est y a un peu les deux en fait. Souvent au début quand on inscrit directement dans les statuts une mission au moment où on crée l'entreprise, la première chose qu'on va faire, c'est faire des produits pour essayer de développer. Ça, c'est normal. Aujourd'hui, chacun des produits qu'on a développés répond à ces problématiques-là. Donc, comme je l'avais dit, faciliter l'accès à l'éducation financière, c'était face à la problématique de dire, on n'apprend nulle part à gérer son argent. Donc, on essaie de... Alors, on ne va pas avoir la prétention de donner d'éducation financière, mais c'est plus donner des outils qui permettent de le faire. L'accès et le bien-être financier, c'est plutôt traité du côté avec l'accès au salaire. Donc, on l'a vraiment traité d'une manière produit. Mais aujourd'hui, on ressort un peu de l'autre côté en disant, maintenant qu'on a créé ces produits-là, qu'on les a mis en place chez des clients, qu'ils ont une utilisation depuis un certain nombre de mois, donc qui permet d'avoir quand même un bon historique et des bons retours, on va créer des outils qui vont permettre de mesurer ça et d'essayer de voir s'il n'y a pas des petites sensibilités, des petites choses qui permettent d'améliorer justement cette mission qui est quand même assez large, enfin ces objectifs qui sont quand même assez larges, et de voir si on ne peut pas aller plus loin. Donc je pense que si on devait faire évoluer ces statuts-là, ce serait peut-être pour les rendre plus précis. Mais pour le moment, non, ils correspondent bien à ce qu'on fait, quoi. Mais on aimerait bien, et c'est tout l'intérêt de l'accompagnement qu'on peut avoir via notamment des sociétés de conseil, c'est de savoir comment est-ce qu'on mesure l'impact qu'on a et comment est-ce qu'on voit si on est vraiment proche de la mission qu'on a et de ce qu'on a mis dans les statuts.
Et justement, en fait, c'est toujours la difficulté quand on veut passer à mission dès le lancement de son entreprise, c'est que on a 1500 choses à gérer. Mesurer l'impact lié à sa mission, c'est pas forcément la chose la plus facile à faire au début. Hein.
Non, c'est clair. C'est clair, et surtout qu'au début on se dit pour mesurer l'impact il faut déjà avoir suffisamment de données pour mesurer cet impact là et c'est encore le sujet aujourd'hui pour nous, et d'ailleurs dans le rapport de mission c'est ce qu'on a mis, c'est l'idée, c'est d'avoir de plus en plus de personnes qui utilisent nos systèmes pour avoir un échantillon suffisamment grand pour regarder ça. Aujourd'hui l'échantillon il est suffisamment grand, mais on avait quand même ce sujet de mesure de l'impact en tête depuis le départ, et ce qu'on a fait nous au début c'était plus de le mesurer avec les outils qu'on avait, sans avoir des projets très long terme, mais plutôt en échangeant avec des salariés ponctuellement, en étant assez proche des managers terrain pour qu'ils nous fassent remonter s'il n'y avait pas des problématiques plus précises des salariés, s'il n'y avait pas des retours un peu spécifiques. Donc on l'a fait vraiment un peu plus de manière subjective, et là ce qu'on essaye de mettre en place c'est plutôt des choses objectives. Donc de la mesure via de la data pour permettre de faire remonter ça, et notamment on essaie de suivre combien d'AGIO on essaie de faire économiser aux salariés, ce genre de choses pour vraiment mesurer ça, quoi. Donc oui, au début on se concentre, une fois qu'on a mis la mission dans les statuts, la première chose c'était construire des outils et ensuite de les mettre en place chez des clients, mais de plus en plus on va travailler sur ces aspects là, quoi.
Est-ce que tu peux nous dire comment les investisseurs qui ont fait le tour de table en fin d'année dernière là, ont pris le sujet de la société à mission? Est-ce que c'était nouveau pour eux? Est-ce qu'ils ont été surpris? Est-ce qu'ils l'ont bien accueilli? Puis sans donner de nom, est-ce qu'il y en a qui t'ont dit « Non mais attendez, l'entreprise à mission, c'est pas pour moi ».
Non, très honnêtement, surtout que nous, on commence vraiment nos discussions en disant qu'on est entreprise à mission. C'est la première chose qu'on évoque, et ça permet d'introduire le sujet. Et on n'a jamais eu d'investisseurs ou de potentiels investisseurs, de gens qu'on a rencontrés, qui nous ont, qui ont abordé le sujet de manière négative. Il y a eu un certain nombre de personnes, en effet, qui ne connaissaient pas, et qui ont demandé qu'est-ce que ça impliquait. Mais aucun investisseur n'a été réfractaire à ces systèmes-là, quoi. Donc, je pense aussi, parce que ça faisait beaucoup de sens pour l'entreprise de l'avoir, le statut et que c'était presque quelque chose qui collait à notre ADN. Enfin, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est vraiment proche de notre ADN. Je ne sais pas si pour une entreprise qui est un peu moins en direct sur des sujets comme ça, avec des enjeux sociaux, environnementaux, ça collerait et ça pourrait faire poser des questions aux investisseurs. Mais très honnêtement, soit c'était connu comme système, soit c'était pas connu, mais ça a été... Les questions qui ont été posées étaient plus des questions de curiosité que des questions pour essayer de comprendre si ça impliquait des problématiques administratives ou de régulation qui allaient nuire à l'investissement potentiel de la personne.
Oui, parce que vous n'avez pas vraiment cherché dans les investisseurs que vous avez choisis des investisseurs à impact spécifiquement ?
Si, on en a cherché. Il y en a pas mal de fonds avec des modèles différents. Aujourd'hui, on a certains business angels qui ont des, qui sont dans l'univers social, environnemental. On n'a pas de fonds à impact parce qu'il n'y en avait aucun qui était sur des entreprises jeunes comme nous. On est toujours en relation avec eux. Il y en a certains, notamment, qui nous ont donné des clés pour faire l'accompagnement justement sur la mesure de l'impact qu'on va avoir. Et c'est justement quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est qu'ils proposent cet accompagnement-là en parallèle. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas simplement regarder des chiffres économiques, mais ils vont mettre en avant des chiffres d'impact, en fait, tout simplement, de la mesure d'impact. C'est ça qui est intéressant, quoi. Donc, il y en a quelques-uns, des VC avec des modèles différents. À voir... On ne rentrera pas dans le détail. Moi, j'ai un avis sur ça, tous les modèles, mais non, je ne pense pas que ce soit le but de la discussion.
Et est-ce qu'il vous challenge dans vos mesures d'impact ?
Oui, alors aujourd'hui, la mission économique, entre guillemets, et impact est un petit peu la même, enfin de moins en moins, parce que le but aujourd'hui, c'est d'avoir un maximum d'utilisateurs, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un impact, faut toucher un maximum de personnes. Donc au final, c'est un peu les mêmes sujets, mais ils nous poussent, en effet, à aller faire plus d'études, d'analyses pour comprendre cet impact-là. Ils disent que le moment est le bon pour le faire. Et nous, on essaie aussi de les driver. Donc c'est un sujet qui revient souvent, typiquement, lors des boards. On a toujours un moment qui est dédié à ça. Et donc il n'y a pas en effet que des aspects économiques, ils sont sensibilisés à ce système-là, ils nous poussent à le faire, notamment ceux et nos conseillers qui sont spécialisés à la Suisse, ils savent très bien que c'est entre guillemets leur rôle, et du coup l'accompagnement est fait de manière soit ponctuelle, soit à des moments bien définis.
D'accord. Alors toute dernière question avant qu'on passe aux questions de fin. Au niveau des salariés, puisque vous êtes justement en phase de recrutement, est-ce que tu as l'impression que c'est un argument qui fonctionne ?
Oui, c'est un argument qui fonctionne bien. Alors on ne parle pas spécifiquement du côté entreprise à mission, enfin, souvent on l'évoque, mais c'est plus l'impact qu'on va avoir, la mission et le sens de la société. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens avec qui on échange, et soit pendant des entretiens de recrutement ou des gens avec qui on travaille qui sont vraiment motivés par ça. Et c'est quelque chose de super important pour nous, parce que quand on est une entreprise jeune, ça peut aller vite. Il y a des choses qui peuvent ne pas plaire à tout le monde. Très honnêtement, moi, je pense que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, mais c'est quand même autre chose que d'être dans une plus grande entreprise, plus stabilisée et tout. Et le fait d'avoir une mission à côté, je pense, rassure. Et est quelque chose qui est recherché par de plus en plus de gens, notamment des jeunes. Et c'est vraiment un argument qui joue en notre faveur. Ouais, ça.
Bon, tant mieux. Ouais. Alors pour terminer, question un peu plus personnelle. En préparant le podcast, je me suis rendu compte que tu étais un passionné de voile. Et d'où te vient cette passion ?
C'est une histoire familiale. On a toujours été intéressé par ça dans la famille. Moi, je suis assez passionné par le côté sportif. C'est un monde qui, déjà sur ces aspects sportifs, se professionnalise, évolue énormément en ce moment. Il y a eu, maintenant, il y a des bateaux volants. Enfin, voilà, ça a bougé en 10 ans comme beaucoup plus que sur les 300 dernières années d'avant, quoi. Donc, super intéressant de voir ces évolutions-là, le côté innovation. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup aussi pour le côté aventure. Ça va pas mal avec le côté entrepreneur. On se retrouve avec Louis là-dessus. on pousse Pierre, qui est le troisième, qui n'a pas du tout d'appétence, à se former et à l'emmener. Mais il y a pas mal de choses qui marchent bien avec l'entrepreneuriat, notamment les valeurs. Voilà, ça va rester humble face à la mer. Et puis au final, on est tous dans le même bateau. Personne ne peut descendre parce que celui qui descend est en ballot. Donc on est obligé d'être ensemble vers un objectif qu'on doit choisir ensemble. Et bah, voilà, on est dans le même bateau, quoi, tout simplement, quoi. Donc ça colle bien avec ça. Et je trouve que c'est deux univers qui ressemblent. Alors j'étais passionné de voile avant de vouloir monter une entreprise, mais je trouve que les deux vont bien ensemble.
Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant pour une entreprise aussi jeune, c'est que vous avez sponsorisé un skipper pour la route du Rhum.
Oui.
On ne s'attend pas vraiment à ça d'une entreprise comme vous, plutôt des plus grosses structures.
Avec plus de moyens aussi, parce que, parce que c'est quand même quelque chose qui coûte assez cher. Alors on l'a fait à notre niveau, on a, c'était en fait Fabio, qui est le navigateur qui a fait la route du Rhum, et quelqu'un qu'on connaît, et donc on lui a, lui le fait aussi pour... Il n'est pas professionnel, mais il le fait pour voilà, sa passion pour la voile et l'aventure et le fait de faire cette épreuve qui est quand même dingue personnellement. Et donc on lui a proposé de lui sponsoriser à notre niveau. Et c'était intéressant pour nous parce que ça permettait de communiquer en effet sur quelque chose qui était autre chose que ce qu'on fait habituellement, qui est un loisir. Donc ça intéresse toujours des gens qui aiment bien aussi ce milieu-là et de suivre ce qui se passe. Et l'avantage qu'on a eu, c'est que Fabio, évidemment, n'est pas arrivé premier. Les premiers ont mis, je crois, 7 jours. Fabio a mis un mois, donc ça nous a permis de communiquer pendant longtemps sur le système. Donc ça a mis une communication plus longue qui a bien fonctionné parce que voilà, ça a fédéré des gens sur ce projet que quelqu'un d'autre avait et qu'on pouvait suivre de manière très concrète. Et ça nous a permis de communiquer aussi sur ce que nous, on voulait véhiculer comme message, surtout au début de l'entreprise. Donc c'était une opération marketing assez intéressante. Il y avait pas mal de gens avec qui on discutait, qui soit sont allés sur le village de la Route du Rhum, soit suivaient les systèmes en disant ah, c'est marrant, j'ai vu Fabio avec votre logo au départ. Et l'anecdote drôle sur là-dessus, c'est qu'on avait mis un autocollant spare que sur un des côtés du bateau, et comme ça les bateaux penchent du coup quand il y a du vent. Et on a eu de la chance parce qu'au départ potentiellement l'autocollant a pu se retrouver sous l'eau, donc il n'y aurait eu aucune photo, aucune visibilité, rien du tout, quoi. Donc on a eu de la chance là-dessus, quoi.
Ouais, ça aurait été quand même dommage.
Ouais,
alors, finis tous les épisodes de podcast par le coup de cœur musical de l'invité. Donc là, l'idée, c'est que tu partages ton coup de cœur du moment ou quelque chose en lien avec ce dont on vient de parler. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est ton coup de cœur du moment.
Un coup de cœur du moment, oui. Ouais, rien à voir avec ce qu'on a dit. C'était plus quand j'ai vu, quand tu m'as dit que tu posais cette question-là, je me suis dit qu'est-ce que j'avais envie de mettre. Et alors moi, je voulais mettre un morceau qui s'appelle « Seabird ». Qui est un petit lien du coup avec la mer quand même, de Alessi Brothers. Donc c'est un groupe américain, je crois, et c'était plus parce qu'ils ont des bonnes ondes dans cette matinée pluvieuse à Paris où on a envie d'un peu de soleil. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce morceau-là.
Bah c'est parfait, on va l'écouter. Parfait, bah merci beaucoup pour cette chanson qui nous égaye un petit peu par rapport au temps du moment. En tout cas, bah, je tenais à te remercier de ton temps et du partage de cette toute jeune expérience encore de Sper. Et vraiment, je vous souhaite de pouvoir la développer autant que possible et de faire de la mission le cœur de ce développement aussi. Je pense qu'il y a pas mal de leçons aussi à retirer pour tous les entrepreneurs qui souhaitent se lancer directement en mission. Il y en a beaucoup hein, qui se disent bah, tiens, je vais l'utiliser dès le début comme un cadre, quelque chose qui te guide un petit peu dans ta trajectoire et puis potentiellement peut-être le remodeler un peu plus tard une fois que l'entreprise a un petit peu grandi.
Ouais, c'est ça, je pense. Je pense que c'est la bonne veine. Mais écoute, merci de m'avoir invité. J'espère que le partage d'expérience sera bon aussi pour ceux qui ont envie de le faire dès le départ. Et d'ailleurs, si vous avez des questions ou vous voulez aller un peu plus loin, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn.
Bah, c'est parfait, je mettrai ton LinkedIn. Alors, bah, merci à toi et à bientôt.
Merci Vivien, à bientôt.
Merci de votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager à votre réseau. Et en plus, je sais, j'en demande beaucoup, à noter l'épisode ou le podcast sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est vraiment important pour en améliorer le référencement. Également, si jamais vous avez des idées d'entreprises à mission que je pourrais interroger, ou des recommandations d'experts thématiques qui vous ont vraiment marqué, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou directement par email à vivien@lamachineascence.fr. C'est terminé pour aujourd'hui, n'hésitez pas à retrouver les précédents épisodes, et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine rencontre.